Chers amis, chers auditeurs, bonsoir. Bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin à partir de 7h30. Et puis, bien, ma solidarité aux noctambules que je comprends si bien. Au micro, l'abbé Guillaume de Tannouarn. Nous allons nous lancer dans la philosophie elle-même, cette philosophie qui était un petit peu comme je vais prononcer un nom anglais, je vais immédiatement mettre une pièce dans le cochonnet, le background de
Vous répondrez en latin peut-être.
Voilà de nos considérations et je dois dire pourquoi ai-je invité François Huguenin et Maxence Caron, tout simplement parce que on me demandait de faire ce remplacement et que, eh bien, l'un et l'autre étaient les deux derniers conférenciers au Centre Saint-Paul et où vous avez fait tous les deux des conférences, je dois dire, vraiment merveilleuses. Je voudrais maintenant en venir à la philosophie et je sais très bien qu'un certain nombre d'auditeurs vont immédiatement se dire si c'est de philosophie qu'il s'agit, j'éteins tout de suite. Eh bien, chers auditeurs...
La philosophie, c'est si compliqué, mon père, vous vous rendez pas compte. c'est tellement terrible.
Mais avec vous, Maxence, pas du tout.
De littérature philosophique, il s'agit de théologie, il s'agit de musique... Il s'agit de plusieurs choses.
Il s'agit de vie. Enfin, donc, à vous lire en tout cas, on sent qu'il y a une vie. Je voudrais simplement, les auditeurs vous ont déjà entendu, mais dans telle ou telle émission, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je voudrais dire que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, un livre sur Heidegger qui est, à ma connaissance, la synthèse sur Heidegger en français, 2000 pages à peu près.
Exactement, 1764. voilà, donc, pauvre Heidegger ou pauvre moi.
Un livre sur Hegel. Et alors, oui, ces deux livres ont quand même un grand avantage, c'est que vous traduisez ces philosophes allemands en français. C'est-à-dire que le lecteur français va pouvoir lire ce qu'ont voulu dire ces philosophes sans passer par les très rocailleuses traductions, mais en vous suivant et à vous suivre, il y a une espèce d'évidence qui se fait.
Oui, il paraît que nous sommes au siècle des médias. Alors certains allument la télévision pour savoir ce que le monde a à leur dire, pour essayer de savoir ce qu'une autre langue a à me dire quand c'est une espèce de fou qui, vous vous rendez compte, un philosophe qui parle. J'ai préféré, pour le traduire et traduire sa pensée, avoir recours à la littérature et à la poésie pour conjurer la Babel philosophique. Alors, j'ai préféré effectivement et tout simplement choisir les poètes et une langue relativement littéraire pour laisser parler les philosophes eux-mêmes. Il faut savoir une chose, c'est que la
littéraire
philosophie...
Littéraire, et je dirais souvent, si vous me permettez, classique. Vous êtes tout spécialiste de Heidegger ou de Hegel, ou si vous voulez, si on veut faire pédant, du heideggerianisme et du hegelianisme que vous soyez. Vous êtes d'une clarté... Vous êtes classique, vous êtes un classique français.
Être spécialiste du heideggerianisme, ça veut dire ne pas en faire partie, puisque ça veut dire qu'on peut en prendre conscience, donc c'est parfait. La différence, si vous voulez, la différence, la philosophie, les gens croient que c'est un regroupement de divers personnages qui s'amusent à faire les pédants en utilisant un lexique incompréhensible et pitoyable afin de se prendre pour des gens très intelligents. Alors,
il y a de temps en temps de ça quand même un petit peu.
Tout le monde dit ça et c'est un peu pénible parce que avant tout, les gens qui font de la philosophie, bon, il y en a peut-être qui sont victimes eux-mêmes de ce genre de pédantisme parce que bon, le pédantisme, c'est d'abord être soi-même victime de l'obliquité que l'on s'impose par différentes formes de complexes que l'on ne s'avoue même pas à soi-même. Mais la philosophie, c'est d'abord se confronter à des réalités qui ne sont pas des réalités visibles, mais pourtant qui sont des réalités quotidiennes et qui concernent chaque personne. Alors, on ne fait pas de procès aux mathématiciens, aux physiciens ou à tel ou tel technicien de la matière ou de l'antimatière d'avoir un langage technique. Le philosophe, lui, n'a pas de langage technique. Aucun philosophe n'emploie le vocabulaire d'un autre. Vous pouvez prendre n'importe quel nom propre de la philosophie. Jamais ce sera le même vocabulaire chez l'un ou chez l'autre. Alors, le problème, c'est qu'on va accuser chacun de jargonner. Bon, alors, les philosophes antiques jargonneront moins parce qu'on maîtrise mieux le latin ou le grec qu'on ne maîtrisera effectivement les langues teutones, mais en tout cas on dira toujours que c'est compliqué, etc. Mais il faut savoir que la philosophie ne technicise absolument pas. La philosophie, enfin du moins la vraie philosophie.
Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas un spécialiste de Heidegger, mais pour le peu que j'en ai lu,
question épouvantable.
Il semble quand même que.
Mais il s'adresse tout simplement. Heidegger est un homme qui veut aller regarder avec le seul outil qui est le langage, aller regarder une réalité qui est totalement invisible, qui est tout simplement la donation de l'étang par l'être, donc le flux lui-même. Alors comment allez-vous analyser le flux avec ce qui par excellence n'est pas fluide, à savoir le langage? Donc pour cela il faut avoir un langage fluide, et Heidegger va tordre l'allemand dans tous les sens, une langue extrêmement carrée. C'est la langue la plus carrée en Europe, une langue qui est un véritable puzzle où on ajoute les suffixes, les préfixes, etc. pour avoir des mots ensuite à rallonge. Cette langue, il va ajouter énormément d'éléments qui effectivement sont non seulement intraduisibles pour le cerveau allemand moyen, mais alors encore plus pour une langue autre que l'allemand. C'est un auteur très enfermé dans sa langue. Alors sa philosophie paraît difficile, mais ce n'est pas la philosophie qui est difficile, c'est le rapport de la langue humaine avec des réalités qui ne sont pas seulement humaines, mais qui sont d'origine autre, des réalités qui sont d'origine divine. Il y a un rapport de Heidegger au divin. Heidegger n'est pas un penseur chrétien, mais c'est un penseur qui pense le divin. Donc la langue subit des contorsions, des distorsions, et par rapport à cela, on règle vite le problème de la difficulté de la philosophie en elle-même, en se disant que quand on parle de réalités qui ne sont pas dans l'élément de la quotidienneté et qui ne sont pas dans l'élément de la technicité scientifique ou de l'emprise sur l'objet, eh bien, le langage change, se métamorphose, et puis donne de nouvelles sonorités, de nouvelles syntaxes. Voilà. Mais quand vous êtes face au langage heideggerien, que vous regardez ce qu'il vous dit, mais je parle de Heidegger, je parle également de Hegel, je parle de ces penseurs qui ont créé une langue grâce à une autre langue, l'allemand, qui est difficile parce que c'est un puzzle, comme je disais, eh bien, on a quelque chose d'à peu près complexe, certes, mais qui se laisse raisonner, qui laisse raisonner une autre entente et qui ne déçoit pas son lecteur quand on fait l'effort de se laisser pénétrer par lui.
Mais alors ce qui est frappant quand même dans vos livres, c'est cet effort de traduction que vous faites, une traduction et qui ne vise pas à constituer, j'ai l'impression en tout cas, un lexique mot pour mot né en allemand et transcrit en français, mais qui vise à permettre au lecteur français de surfer sur la vague heideggerienne, comme on pourrait, se détendre d'autres manières. Enfin, il y a cet aspect dans votre écriture.
La chose est tout à fait en rapport avec ce que je viens de dire, en fait, puisque c'est l'élément que regarde la philosophie qui est en cause, c'est-à-dire de se plonger dans cet élément-là. Et d'autres personnes ont vécu dans cet élément, ce sont toutes les personnes qui ont pensé de manière essentielle. Et ces personnes sont à la fois des poètes, des romanciers, des philosophes, qui ont tous voulu dire une même énigme, une même question, à savoir pourquoi, quel est le sens des choses, quel est le sens de la vie, des questions qui ne sont pas du tout techniciennes et ne relèvent d'aucune science, des questions qui sont celles de la vie de chacun. Alors bon, peut-être il y a ce que Pascal appelait ces extravagantes créatures qui ne se posent pas ce genre de questions. Bon, écoutez, à ce moment-là, parfait, il y a des émissions de télévision en pagaille pour qu'elles puissent
Il est bien évident qu'ici, pour penser à ce niveau et aussi tranquillement, vous êtes sur le libre journal de Catherine Rouvier, dont j'assume exceptionnellement la responsabilité, Guillaume de Tannoirne au micro, et nous recevons Maxence Caron pour ce livre. J'ai parlé de vos grands livres sur Hegel et Heidegger, mais vous venez de produire un livre plus personnel, qui s'intitule « La vérité captive ». La vérité captive, de quoi est-elle captive? De la complexité de la philosophie, des complexes des non-philosophes, comme quel est le de quelle captivité vous délivrez dans ce livre de 1100 pages, de quelle captivité vous délivrez la vérité?
Alors, ce livre est le premier acte d'un système philosophique qui remonte le temps, qui remonte à travers l'histoire. Ce livre est composé de deux grandes parties. Une première partie qui expose le système en général et qui est une ontologie trinitaire. Donc, qui relie la faculté humaine de penser à ses origines ontologiques. Bon, à savoir pourquoi pensons-nous, comment pensons-nous et dans quelles racines notre pensée plonge-t-elle pour pouvoir être la pensée, tout simplement. C'est un mystère que la pensée humaine, que chaque personne qui est actuellement à l'écoute de mes élucubrations quintessantes puisse une seconde regarder ce qu'est la pensée et regarder sa pensée en train de penser. C'est un mystère total et c'est une nuit, une infinité, un gouffre, une fractale. Allez donc voir quel est le fond de cette pensée, vous ne le verrez pas. Et il s'agit donc de poser la question non seulement de l'unicité, de la singularité de cette pensée, de ce comportement humain qui nous excepte de tout être de la nature, qui fait de nous une créature totalement à part. Et par ailleurs, une fois que nous avons constaté ce comportement particulier, de se demander quelles sont les conditions de possibilité pour que nous puissions être ces créatures-là, pour que nous puissions être ces êtres-là, pour que nous puissions être tout simplement ce phénomène-là. Et remonter de cette capacité réflexive que nous sommes à la condition de déploiement de cette capacité réflexive que nous sommes, de cette liberté, si vous préférez, que nous sommes à cette capacité, de cette capacité à sa source, c'est précisément la question que la philosophie a soigneusement évitée depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de là, il y a un immense refoulé de la philosophie. Elle a effleuré la question. Elle l'a posée parfois. Elle l'a tenté de la résoudre chez justement Hegel et Heidegger. C'est pas pour rien que je me suis intéressé à ces deux grands penseurs. Mais ces tentatives de résolution d'une question qui est à la fois la plus simple et la plus complexe de tous les temps n'a jamais été satisfaisante.
Si je vous suis bien, la philosophie ou la vérité, plus exactement.
La philosophie d'une parenthèse extraordinaire qui est, que je referme aujourd'hui avec ce livre. Alors oui, bien sûr, c'est prétentieux, c'est atroce, il est fou ce Maxence Caron. Oui, mais il peut être fou, mais il y a une folie raisonnée, et la folie raisonnée est dans ce livre, La vérité captive, qui s'inspire d'un titre, d'une phrase de Saint Paul, Romains 1, 18, La vérité captive. Ils ont rendu la vérité captive. Oui, ils l'ont rendue captive. Saint Paul qui appelait précisément à regarder de loin les philosophes, eh bien, j'adopte cette attitude paulinienne dont je parlais au centre Saint-Paul il y a quelques jours, à savoir prendre distance par rapport aux philosophes et les regarder s'ébattre autour d'une question qu'ils ne traitent qu'en la posant avec des pincettes, quand ils la posent et quand ils essayent de la résoudre, ils n'arrivent pas à résoudre. Et pourquoi ne parviennent-ils pas à la résoudre? Parce qu'ils refoulent l'essentiel qui est au cœur de la philosophie et qui en même temps est au cœur de son refoulement, et c'est ça qui fait toute l'ambiguïté schizophrène de la philosophie.
Donc la vérité est captive de cette question refoulée.
La vérité est captive de la philosophie elle-même. C'est pour ça que le sous-titre de mon ouvrage, c'est La vérité captive, sous-titre de la philosophie, avec un enjambement qui est à la fois obligatoire et non obligatoire. On peut lire le titre comme on le voudra. La question fondamentale, c'est que la philosophie pose une aspiration, à savoir celle à la vérité. La philosophie veut la vérité, mais le gros problème, c'est qu'elle pose tous les obstacles qui l'empêcheront de trouver cette vérité. Et cette vérité, elle y aspire et elle se rend malheureuse, la philosophie se rend malheureuse de ne pouvoir la trouver. Alors que faire? À partir de là, il s'agit de voir, justement, de remonter jusqu'aux symptômes premiers par rapport auxquels la philosophie a fui la prérogative qui était la sienne et qui, comme prérogative, était d'abord quelque chose de positif. Et fuir ses prérogatives, c'est prévariquer. Donc la philosophie a tout simplement choisi de poser une question qui est celle... Enfin, a-t-elle choisi d'ailleurs ? Non, elle n'a pas choisi. Elle a choisi de répondre à la question qui se pose à tout homme. Et face à cette question, qui est en même temps la réponse qu'elle-même employait, à savoir poser la question du bonheur, poser la question du sens des choses, elle a fui tout simplement la réponse qu'elle aurait pu donner. Et alors, qu'a-t-elle fait ? Au lieu de regarder l'élément de hauteur, l'élément de transcendance qui appelait, qui la suscitait elle-même comme philosophie, qui lui demandait quel est le sens des choses, quel est le principe des choses, quelle est l'essence de l'âme, quel est le principe de l'âme. Au lieu de répondre à cela, elle a, au lieu de pratiquer une démarche ascendante et de s'installer dans l'élément qui infuse sa propre structure, son propre questionnement, eh bien, au lieu de faire cela, l'homme pensant a préféré s'appuyer sur des domaines hypothétiques de fondement, sur des domaines principiels hypothétiques, sur des principes hypothétiques, afin de construire des systèmes philosophiques qui, pour le coup, employaient le mot de système, mais dans un sens totalement usurpé, afin de s'installer dans des petits conforts qui sont ceux des différents systèmes philosophiques qui ont défilé sous nos yeux depuis
Platon. Vous reprochez à la philosophie, si je vous ai bien suivi, de sacraliser à l'excès, au fond, les petites choses de l'existence, enfin, de tomber dans...
Non, pas du tout, parce que non, ça c'est ce que fait la phénoménologie, enfin plutôt je dirais la phénoménoscopie depuis 50 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des penseurs, enfin qui s'intitulent penseurs, qui se croient pensants, et qui vont faire vont s'amuser à trifouiller dans le réel, afin de le vernir,
donner quelques exemples, vous pouvez, on peut peut-être s'amuser un peu.
Vous voulez des noms?
Non, on peut...
qu'on fasse une commission des... Non, simplement, le vernis conceptuel, on va prendre n'importe quoi, puis on va mettre un vernis conceptuel dessus, puis on va dire ah, ceci équivaut à phénoménologie, c'est-à-dire équivaut à philosophie rigoureuse. Bon, alors ça, on s'amuse à faire de l'onanisme à ce niveau-là, sur le plan intellectuel. Évidemment, ce n'est pas du tout la question qui se pose à quelqu'un qui a la prétention de penser avec honnêteté. Donc il faut éliminer certaines présuppositions pour pouvoir retrouver les questions fondamentales qui sont présentes au fond du cœur et qui ont besoin d'avoir une nourriture forte afin de pouvoir être apaisé. Et voilà, tout simplement.
Boris.
Oui, je veux dire quelque chose au propos de votre critique du système philosophique allemand.
Oui.
Hegel, entre autres. Que la philosophie russe de 18e au 20e siècle, au fond, s'occupait justement de cette recherche du divin et refusait le schéma du panlogisme. Et une figure peu connue ici comme Khomyakov, c'était un philosophe, historien, scientifique, enfin, un personnage très riche, qui a, au début du 19e siècle, déjà critiqué Hegel et démontré que le hegelisme il va amener nécessairement au matérialisme. Quelque part, il a prédit Marx.
Oui, mais vous savez, oui. Hegel a été très critiqué d'emblée.
Mais critiqué dans son essence.
Ah oui,
dans ce désir de fabriquer un monde idéal, technique au fond, d'un monde.
Est-ce que le penseur qui représente couramment l'idéalisme est donc déjà le prophète volontaire ou involontaire du matérialisme
et du panthéisme. Alors Hegel a été critiqué dès l'apparition de ses livres, a été accusé de panthéisme et y compris de matérialisme. Hegel est un penseur immense. Je ne veux pas faire croire ici que je méprise Hegel ou quoi que ce soit. Je veux simplement aller au fond de ce que Hegel représente, même malgré lui, même dans ce qu'il a pu penser. J'ai une attitude relativement singulière, c'est-à-dire que je critique les penseur systématique, et en même temps je propose un système. Oui, mais pas dans le même sens. Mon système est totalement ouvert sur une entité qui n'est pas une entité, une réalité qui n'est pas une réalité au sens où nous entendons la réalité, à savoir la transcendance elle-même, tout ce qui est de moins saisissable. La question, c'est que la plupart des systèmes philosophiques sont des systèmes qui se referment sur l'objet afin de pouvoir déduire un monde. Mon propos n'est pas de déduire un monde, il est de pouvoir centrer la pensée sur son élément propre afin qu'elle y séjourne.
Et alors cet élément propre, Hegel, cet élément donc, propre, si on essaye de préciser les choses un petit peu pour l'auditeur, pour vous, dans la vérité captive, qui est c'est Dieu, enfin appelons-le.
Ah ben bien entendu,
par son nom.
Ah ben oui.
Oui, mais vous savez, c'est peut-être pas forcément évident pour.
Mais je n'ai pas la naïveté de ne pas être chrétien. Pour moi, c'est une aberration, si vous voulez. J'ai été athée pendant quelques années. Je me suis converti à l'âge de 22 ans. Et aujourd'hui, mais je me suis converti parce que je n'avais pas lu les penseurs chrétiens. Mais quand vous regardez ce qu'est la philosophie chrétienne, la patristique, les poètes chrétiens, enfin, quand vous regardez la force de frappe spéculative du christianisme, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il reste de tout le reste spéculativement. Les penseurs chrétiens, je prends un exemple qui n'est pas très original, qu'on veuille me pardonner, mais Saint Augustin, voilà. Saint Augustin. Ma démarche qui a une certaine originalité, ça c'est incontestable, est en même temps relativement classique au sens où je n'ai pas d'autre prétention que de continuer le De Trinitate de Saint Augustin. Que fait Saint Augustin dans le De Trinitate ? Il prend prend acte d'une analogie entre le fond de l'âme et la structure trinitaire de Dieu. Bon, je n'ai pas voulu faire autre chose que de reprendre tout ce qui a été fait en philosophie depuis deux siècles, d'intégrer cette démarche un peu complexe, certes, de la donner dans une version lisible, c'est-à-dire dans une langue française qui soit française, et sur ce fond-là, montrer comment le fond de l'âme, montrer philosophiquement et non pas théologiquement, était lié à la transcendance divine par différents paliers, et montrer que la Trinité était la seule façon de pouvoir penser l'homme tel qu'il est dans ses comportements existentiels, existentiaux, dirait un Heidegger. Donc, ce que je dis est à la fois, certes, extrêmement, peut être à la fois choquant, curieux, bouleversant, mais en même temps très classique. Enfin,
c'est que la vérité captive, c'est cette vérité que la philosophie, que l'histoire de la philosophie, met ailleurs qu'en Dieu. C'est cet absolu qui est posé dans la quotidienneté, ou dans l'histoire, ou dans...
Dieu est le maître mot de la philosophie. L'athéisme en philosophie est un phénomène qui est relativement récent de manière systématique. Bon, il y a eu des philosophes athées, il y a eu des postures athées à travers l'histoire de la philosophie. Mais le mot Dieu fait la plupart des systèmes philosophiques. Il est présent.
Métaphysique.
Voilà, c'est ce qu'on a appelé. On a appelé la métaphysique après Heidegger. Depuis Heidegger, il est convenu de dire que la métaphysique c'est fini parce que Heidegger, ouais. il a dépassé la métaphysique, paraît-il. Donc, alors bon, ça, évidemment, je suis totalement contre ce genre de pensée puisque dans ce livre, je montre et n'en déplaise aux Heideggeriens que Heidegger n'a strictement rien ajouté à ce débat. L'a même amplifié, l'a même illustré avec un vice qui lui a complètement échappé. Alors bon, ça ne fait pas de Heidegger un pêcheur, mais ça fait de Heidegger un errant. Donc, il y a chez Heidegger une manière de confisquer le concept d'être pour le réduire à ses guises. Excusez-moi, c'est un gros mot heideggerien. Oui, il m'en reste encore un petit peu. Il faut que je me lave un peu de heideggerianisme. Bon, pour réduire l'être à son comportement, disons, diffusif. L'être chez Heidegger est une diffusion. Et alors, Heidegger qui
une
croit...
Une diffusion avec rien qui diffuse.
L'être est ce qui fait jaillir le monde. Voilà. Mais il est réduit à cet être jaillissant. Et alors, Heidegger va osciller pendant toute son œuvre. Alors, vous avez des textes par-ci, des textes par-là. C'est une œuvre très éclatée. Donc, il va y avoir des textes qui vont vous dire que l'être n'est que cette diffusion. D'autres qui vont dire, oui, mais l'être est une réserve. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la réserve. Mais voilà. Alors, si on dit que derrière la réserve, il y a quelque chose qui ressemble à une substance, alors là, évidemment, Heidegger se rétracte. Bon. Après, si on dit que l'être ne se réduit qu'à une diffusion des temps, Heidegger va dire, oui, mais il y a quand même une réserve. française. Enfin, bon, il est toujours à cheval sur quatre montures. Donc, c'est assez curieux. Les quatre montures du quadriparti, pourrais-je dire. Donc, quadriparti chez Heidegger, c'est le rapport qu'il établit entre le ciel et la terre, et entre les divins et les mortels. Donc, une restauration d'un certain, je dirais, paganisme grec, revu et corrigé par la lecture de Hölderlin. Bon, donc, chez Heidegger, le comportement de ce qui est le plus ultime dans sa pensée, c'est un comportement de diffusion du monde. Bon, je vais très vite, c'est pas le vocabulaire d'Heidegger. Heidegger dira de diffusion de l'étang, c'est ce qu'on appelle une donation. Le l'être est donation, l'être est don. Bon, alors, chose dans laquelle va s'engouffrer en faisant semblant de savoir d'où ça vient, enfin, en faisant semblant d'ignorer, pardon, d'où ça vient, chose dans laquelle va s'engouffrer Jean-Luc Marion. Donc, la donation, alors, il va y avoir de la diffusion, de la donation, etc. Et le dernier mot de Heidegger dans la conférence Zeit und Sein, c'est-à-dire temps et être, qui répondra à être et temps, donc, la conférence temps et être de 1962, sera de dire que l'être est le fameux Es gibt, c'est-à-dire, nous traduisons par « il y a », « es gibt » en allemand, nous traduisons par « il y a », mais littéralement, ça veut dire « cela donne ». Bon, il y a quelque chose qui donne. Bon, il y a enfin quelque chose, si je dis ça, évidemment, en langage Heidegger, on me dira « oui, c'est un gros mot », parce que quelque chose, c'est un gros mot chez Heidegger, parce que l'être n'est pas une chose, dans un sens, il n'a pas tort, mais dans un autre, la raideur n'est pas de circonstance. Donc, il dira qu'il y a un élément, le S, donc le il du il y a, et il y a un élément qui donne. Donc, l'être est cette donation. Et cette donation convoque l'homme à prendre en garde le fait qu'elle donne. Bon. Et dans cette espèce de cercle, évidemment, qui ne cesse pas de se répéter, jamais n'apparaissent les conditions de possibilité de l'être donateur qui fait le comportement de cette donation qui est l'être. Donc jamais, enfin la pensée s'arrête.
Mais alors, est-ce la pensée que s'arrête. Si je peux me faire l'avocat du diable, c'est mon rôle ce soir. Est-ce qu'on peut pas dire que de toute façon le donateur, comme vous dites, il échappe à l'expérience. On n'en a pas l'expérience.
Bien entendu, mais Heidegger dira.
Le phénoménologue dit, moi j'en reste à ce dont j'ai l'expérience. Es gibt, c'est donné.
La phénoménologie,
et puis au-delà, je sais pas.
La phénoménologie heideggerienne ne dira jamais qu'elle en reste qu'elle en reste à l'expérience, puisque le but de Heidegger, c'est précisément de faire une phénoménologie de l'inapparent. Ce sont ces termes exacts. La phénoménologie de l'inapparent, c'est précisément aller bien au-delà de l'expérience pour voir les conditions d'émergence de l'expérience. Donc on est bien au-delà de tout cela. On est dans les domaines que Kant appellerait les domaines du transcendantal, c'est-à-dire des conditions d'apparition de ce qui apparaît, des conditions d'apparition du phénomène visible. Bon, les conditions d'apparition du phénomène visible, pour Heidegger, il les appelle l'être. Bon, l'être va prendre ensuite plusieurs noms différents, mais jamais Heidegger ne donnera la condition de possibilité du comportement déployant ou jaillissant de l'être. L'être qui déclôt les temps, l'être qui fait éclore le monde, etc. Jamais il ne dira pourquoi.
Vous voulez dire que l'athéisme l'athéisme philosophique de Heidegger, philosophique en tout cas,
bien sûr,
sans préjuger de ses convictions personnelles, l'athéisme philosophique de Heidegger est un pur postulat que, au fond...
Non, je dirais que c'est plus grave. Je dirais que le problème fondamental qui se pose, c'est que la pensée s'arrête. Elle choisit de s'arrêter avec une présupposition qui est celle de toute une époque. Heidegger dira l'être est donation, très bien, et à partir de là, il ne dira pas pourquoi, et il n'essaiera pas de voir les conditions de possibilité de cette donation. Alors la pensée s'arrêtera. Tant qu'on peut dire mais à quelles conditions une chose est possible, la pensée ne s'arrête pas. Et tant qu'on n'aura pas empêché, tant qu'on n'aura pas satisfait cette question des conditions de possibilité, on n'aura pas fini de penser. Et Heidegger ne permet pas de satisfaire cette question. Il va très loin dans la rétrocession vers les conditions de possibilité. Il va très loin, il va bien, effectivement, satisfaire certaines questions, mais il s'arrête à un moment essentiel. Alors, pourquoi s'arrête-t-il ? Parce qu'il y a une présupposition fondamentale aujourd'hui, c'est que pour qu'une pensée soit acceptée sans critique, il faut qu'elle mette en avant des concepts de fluence, de devenir, de diffusion, de jaillissement, etc. Alors si vous dites ça, il n'y a pas de problème, la philosophie est acceptée d'emblée. Si vous dites au contraire que...
Si vous dites ça, vous avez un principe d'explication, c'est ça que vous voulez dire.
Un principe d'explication qui est sans critique.
Mais la
si vous dites,
dissémination...
Si vous parlez, alors dès qu'il y a du mouvant, du fluent, de la durée vécue, ou des choses comme ça, là tout va bien.
Si vous dites substance,
éternité et stabilité, etc., alors là vous tombez sous le coup de tout le monde qui va vous dire, mais mon pauvre ami, vous êtes archaïsant, vous êtes un métaphysicien, insulte le suprême, vous êtes un philosophe d'un autre temps, et voilà. Donc les mots substance, éternité, stabilité, etc., sont des gros mots, sont des insultes que l'on fait à l'être, si l'on considère comme cela. Et on ne pense jamais à la puissance de spéculation que peut générer le mot substance, si on le prend au sérieux, si on le prend tel que les pères de l'Église l'ont pris, et qui ont pensé bien plus profondément que l'être jaillissant et des guerriers, puisqu'ils l'ont pensé à la source même du premier acte que fait Dieu.
Alors, ce mot substance sera le dernier mot du premier acte de cette émission, si vous voulez. Nous retrouvons dans quelques minutes. Mais il importe tout de suite de laisser le temps de la pause technique et peut-être aussi le temps aux auditeurs de récupérer, de rassembler leurs idées et de s'interroger sur La vérité captive, donc l'ouvrage de Maxence Caron que nous recevons ce soir et qui est publié aux éditions du Cerf. Chers auditeurs, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du Libre Journal de Catherine Rouvier. Au micro, l'abbé Guillaume de Tannoirne. Nous sommes partis dans les hauteurs de la métaphysique et un auditeur a eu la délicate attention de nous envoyer une formule de Heidegger que je ne résiste pas à citer. La parole est la fleur de la branche. En elle fleurit la terre à la rencontre de la floraison. Vous avez un petit commentaire à faire sur cette formule
que l'auditeur que l'auditeur continue à lire Heidegger comme ça. C'est pas très bien.
Alors,
que vous voulez. Les gens lisent.
Est-ce qu'on pourrait dire concrètement de cette formule
la traduction.
En tout cas, moi, elle me fait penser à la formule d'Angelus Silesius qui dit la rose
sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Oui.
Et qu'est-ce que vous répondez à ça, Maxence Caron, vous qui cherchez le transcendant ou la transcendance du transcendant, vous qui reprochez à la philosophie de ne pas s'être tenu sur ses hauteurs, de ne pas avoir identifié
le
principe, la substance, comme nous avons dit, c'était notre dernier mot tout à l'heure.
Je reproche à la philosophie non pas de s'être tenu sur de fausses hauteurs, etc. Je lui reproche simplement d'avoir vu certaines choses et d'avoir tourné le dos par sa démarche d'abord constructive puis déconstructive, d'avoir tourné le dos à l'installation et le séjour dans un élément qui devrait être son élément, celui de ce qu'il lui faut pour pouvoir penser et de ce qu'elle suppose quand elle pense. Donc elle ne s'est pas tenue dans les hauteurs. Les hauteurs philosophiques sont belles, elles sont grandes. Simplement, pour trouver le fond, pour aller au principe, il ne faut pas se contenter de fuir certaines formules et certaines questions fondamentales qui sont au cœur même de l'acte pensant.
Vous voulez dire que finalement ces jolies formules, comme celles que nous venons de citer...
Mais là c'est une citation qui est coupée de son contexte, etc. Ce qui est beau, vous avez dans la pensée, ce qui est beau, c'est que c'est le processus qui compte autant que le contenu final. Donc là, bon, on nous donne une citation de Heidegger, c'est très gentil, merci beaucoup. Bon, déjà, elle n'est pas dans la langue originale. Et d'autre part, bon, les histoires de fleurs, moi j'aime beaucoup également. Mais s'il y a des roses sans pourquoi, eh bien, qui fleurissent parce qu'elles fleurissent. Et si jamais la parole de la fleur, de la parole de la floraison, moi j'aime beaucoup, c'est très bien. Simplement, je ne goûte pas la traduction française.
Alors, il y a une autre auditrice qui nous dit, moi, la transcendance... j'ai cru longtemps que la seule transcendance c'était la foi et que en dehors de la foi la question se posait le problème du transcendant c'est une question.
Bon, alors, écoutez, chère madame, il va falloir déjà définir au moins 4 des mots que vous nous transmettez, mais bon, on n'a pas le temps. Bon, d'autre part, la transcendance, la foi, c'est très bien. Les choses sont assez simples. La transcendance, le transcendant. Bon, il y a une différence déjà entre la transcendance et le transcendant. La transcendance, ça peut être un processus. Le transcendant, c'est une personne. Alors, si jamais à cette table il y a des personnes qui croient au transcendant, je pense que c'est des personnes qui ne se mettent pas à genoux devant un processus, mais devant une personne. C'est tout simple. Maintenant, le transcendant, un être. Bon, et cet être. il faut savoir aborder un minimum avec les faibles moyens que la raison possède, savoir aborder à peu près la question de son être. La question de son être, elle est extrêmement compliquée, mais en même temps, elle est extrêmement simple. Un être transcendant et parfait a certains attributs. Son attribut fondamental, c'est l'infinité. L'infinité, c'est la démultiplication de sa gloire. La démultiplication de sa gloire, eh bien, c'est l'autoréflexion de son infinité, c'est l'amour de cette image de soi qu'il obtient en lui. On peut comme ça regarder dans une sorte de tautologie de cette infinie beauté qui ne nous est pas accessible dans la vision, mais qui nous sera accessible dans une vision quand notre regard sera purifié par la grâce. On peut regarder avec la raison ce que signifie toutes ces choses, toutes ces paroles que Dieu nous donne de lui. Et à ce moment-là, on peut passer de cette démultiplication de l'infinité en elle-même, de cet amour de l'infinité pour l'image qu'elle se donne d'elle-même, on peut regarder la Trinité se formuler à travers, comme une synonymie de l'infinité transcendante du Dieu aimant. C'est ainsi que l'on peut très facilement...
Et si cette synonymie n'existe pas entre la formule qui donne forme à la foi et le transcendant, vous voulez dire que finalement, c'est même pas la peine d'en parler.
Comment n'existerait-elle pas, puisque c'est une synonymie, si nous passons logiquement d'un point à l'autre, elle ne peut qu'exister. Si elle est dans l'ordre des possibles et que la raison fait un raisonnement correct, alors elle est dans l'ordre du réel. Je renvoie à certaines règles que l'on trouverait en philosophie du XVIIe siècle. Cette synonymie,
c'est puissant.
Donc cette synonymie qui va du transcendant à la Trinité, bon, ça peut choquer d'une certaine façon. Comment passe-t-on la Trinité ? Je ne déduis pas la Trinité. Je vous rassure tout de suite. J'ai pas envie d'avoir les foudres
de Saint Bernard. À l'époque, avait foudroyé Abélard, je crois.
Non, je ne veux pas dire cela. Je veux simplement dire que la raison est capable de. Joseph de Maistre a une très belle formule quelque part. Je me demande si c'est peut-être dans l'examen de la philosophie de Bacon. Où il dit que les vérités révélées sont données également pour nous permettre de retrouver par la raison ce qu'elles ont donné par la révélation. Donc nous pouvons remonter par la raison aux révélations divines, nous ne pouvons pas les pénétrer par la raison, mais la raison peut comprendre par des moyens rationnels qu'elle a à lâcher prise et qu'elle a à tenir dans l'endurance face au mystère, et qu'une raison qui se détermine par la volonté et par la soumission à la grâce qui la fera grandir précisément dans la proximité au principe, une raison qui se détermine à cela, c'est précisément la foi, la raison qui dit oui à ce qu'elle a vu comme vérité, et donc qui comprend que la vérité la dépasse, c'est une raison qui donne l'initiative à la vérité, qui donne l'initiative à la grâce que contient la vérité, et c'est une raison qui est tout simplement non plus seulement raison, mais qui est foi. Et qui est foi et raison, et qui est donc christianisme, car le christianisme est l'équilibre de la foi et la raison. Et là, je ne fais pas du Maxence Caron, je fais du Jean-Paul II et du Benoît XVI. Ce sont des gens très bien.
En revanche, vous n'êtes pas tout à fait dans la perspective luthérienne.
Ah, tant mieux.
Dans les
Merci beaucoup. Merci.
Vous ne croyez
non,
pas que
non,
la
le
raison
fidéisme
est
là. Une hérésie, me paraît-il. Et je crois que à ce niveau-là, l'Église est très claire. Donc, non, le fidéisme, c'est pas spécialement mon bonbon du soir.
En tout cas, moi, je retiens cette très belle définition de la foi. La foi, c'est la raison qui dit oui à la vérité qui la dépasse.
Dont elle a connu qu'elle ne sera vérité pleine pour l'individu qui la découvre qu'à partir du moment où elle aura compris que la vérité qui est définie comme quelque chose qui nous dépasse, enfin quelque élément qui nous dépasse, a toute initiative. Il faut aller vers le principe, c'est comprendre que le principe a une ascendance sur nous. Sinon, nous ne le chercherions pas. Nous ne chercherions pas un élément, une réalité, avec autant de fièvre, si jamais nous n'étions pas certains qu'elle nous dépasse. Les choses qui ne nous dépassent pas, nous en usons, et puis après, elles nous lassent. Et après, bon, c'est le nihilisme qui, comme disait l'autre, je n'ai pas envie de citer son nom parce qu'il m'énerve, qui est aussi comme un pendule de la souffrance à l'ennui. Donc, ça, c'est
c'est le monde des objets qui nous entourent. Quand on cherche la vérité, on
l'enfer
sait faire
des choses.
Quand on cherche la vérité, on sait qu'elle nous dépasse et on sait qu'à un moment donné, il faudra lâcher prise pour qu'elle puisse tout simplement devenir quelque chose, quelque élément, quelque réalité, quelqu'un qui nous parle. Pour qu'elle puisse nous parler, il faudra un moment que la raison devienne la foi. Et que la foi s'appuie sur ce que la raison lui aura montré comme étant vrai, et que la raison dise « je ne peux plus avancer sans la foi ». Donc c'était l'équilibre qu'est le christianisme. Enfin le christianisme, c'est-à-dire le vrai christianisme, enfin, le catholicisme évidemment. Parce que bon, le protestantisme, enfin bref, j'ai besoin d'en parler. Donc,
alors justement, nous voulions réfléchir ce soir à une grande question qui jaillit tout naturellement de vos propos, mais qui est aussi une question posée, que se sont posées les évêques de France lors de l'assemblée de Lourdes, et une question qu'a portée l'un des plus connus parmi eux, membre de l'Académie française, qui a la réputation d'être l'intellectuel de l'épiscopat, Monseigneur Claude d'Agens. Et cette question, c'est la question de l'identité catholique, question à laquelle, au fond, vous, Maxence Caron, vous accédez, et question à laquelle vous accédez dans la réflexion elle-même, dans le mouvement même de la raison.
Mais l'identité catholique, vous me parliez du protestantisme à l'instant, ça c'est une question qu'on ne peut pas évoquer pour le protestantisme, parce que le jour où ils trouveront leur identité, c'est qu'il n'y aura plus de protestantisme, ou alors qu'ils se seront convertis à la religion vraie. Donc,
pour être peut-être...
L'identité, c'est l'unité, d'une part, et c'est d'autre part la singularité dans l'unité. L'identité catholique, déjà, c'est une église, me semble-t-il. Donc, c'est pas des églises, c'est pas, ce ne sont pas des éparpillements. Voilà. Donc, dans le livre, d'ailleurs, il y a tout un passage sur le luthéranisme de Hegel et sur sa critique de l'Eucharistie.
Donc, vous diriez, je ne sais pas si vous accepteriez cette expression, mais que le protestantisme, avec sa manière de poser a priori autant d'églises qu'il y a de groupes de croyants, et dans
pas,
la dissémination du vrai.
Mais c'est-à-dire que je veux pas faire dans la. Enfin, bon, je parle toujours parfois. Enfin, je parle parfois de manière abrupte. Ça fait partie de mes caractéristiques épouvantables. Mais
c'est votre.
C'est simplement le protestantisme.
Je crois que Socrate jouait l'accoucheur, et vous faites vous jouez de l'électrochoc pour accoucher les esprits.
C'est simplement le protestantisme. Quand on prend le point de vue de Hegel, qui affirmait à la fois un système extrêmement unitaire et qui affirmait être luthérien, il montrait également à quel point, au cœur de son système, il montrait à quel point l'Eucharistie elle-même n'était pas la présence réelle que les catholiques
reconnaissent.
Bon, et pourquoi ne montrait-il pas cela? Il avait des raisons spéculatives de le faire, bon, qui ne sont pas les raisons luthériennes, ce sont des raisons assez propres à Hegel, donc c'est pas la peine de les rappeler ici, ce ne serait pas le sujet. Mais chacun...
Vous voulez dire qu'il y a un rapport profond entre le protestantisme et l'histoire de la pensée allemande?
C'est-à-dire, en tout cas, l'histoire de la pensée allemande est très marquée par la façon dont le protestantisme va laisser libre cours à toute forme de, je dirais pas de liberté, parce que ce n'est pas une liberté que d'avoir le droit d'errer, mais en tout cas va laisser libre cours à l'interprétation possible d'une d'une divinité dont on ne verra plus le lien avec l'incarnation, ni avec le sacrement, ni avec tout ça. C'est pour ça qu'on va avoir des systèmes très brillants, très intéressants, rationnellement, mais qui ne sauront pas rendre la moindre intelligence de l'incarnation. Alors bien sûr, il y a une philosophie de l'incarnation chez Hegel, qui est très intelligente, d'accord, bien sûr, mais elle n'est que intelligente, elle n'est pas vraie, et c'est tout le problème. Alors pourquoi n'est-elle pas vraie? Parce qu'il ne rendra évidemment pas compte de la force présente dans le concept d'incarnation tel qu'on l'utilise en philosophie. c'est pour ça que je me permets de parler de concept d'incarnation. Il y a des christologies en philosophie qui sont très, très, très puissantes. Mais chez Hegel, le Christ n'aura qu'un rôle de témoignage. Il sera là pour fêter le vendredi saint spéculatif. Mais toute la substance du paradoxe christologique, vrai homme, vrai Dieu, ne sera résorbée par le système lui-même.
Vous voulez dire au fond que la bonne nouvelle, l'évangile, devient chez Hegel matière à interprétation, et que devenant matière à interprétation, elle, par définition, elle ne peut plus être objet de foi.
C'est-à-dire qu'avoir la liberté de penser, c'est très bien, c'est une très bonne chose, c'est même obligatoire, je dirais, d'avoir une certaine liberté.
Mais je crois qu'on est vraiment là, dans un problème fondamental, et que les auditeurs pourront tout à fait nous rejoindre, c'est que pour atteindre à la foi, vous disiez tout à l'heure qu'il faut un lâcher-prise.
Oui, mais justement, quand vous lâchez prise par rapport à la vérité, il devient assez concevable qu'une vérité aussi infinie que celle de Dieu doive, pour communiquer avec sa créature, créer une médiation. Bon, ça, c'est totalement absent de la pensée hegelienne, d'une certaine façon. C'est absent également de la pensée kantienne, n'en parlons pas, la pensée kantienne va le ressentir sur le plan négatif. Bon, je ne rentre pas dans les détails.
Kant a lui-même posé des limites qu'on ne va pas dépasser.
Voilà, mais bon, en même temps, les posant, il ressent d'autre part l'absoluité du divin. Bon, simplement, la pensée allemande va donner une multiplicité de christologie. Bon, la christologie de Schelling, qui est un peu plus subtile que celle de Hegel, et qui, en revanche, va donner une certaine place à la transcendance. Ce n'est pas le cas du tout chez Hegel. Il va y avoir une christologie chez Hegel, mais il ne va pas y avoir de transcendance. Alors, ça va être assez curieux. Bon, il va y avoir un mouvement de transcendance, mais à s'appuyant sur aucune substance de transcendance. Bon, par ailleurs, les autres christologies allemandes, dans l'époque moderne, vont être assez curieuse. Au moins, si vous voulez, dans la multiplicité catholique, il va y avoir énormément de christologies, mais elles vont toutes dire la même chose dans la différence. Vous prenez Grégoire de Nazianze, vous prenez Grégoire de Nice, vous prenez Saint-Augustin, vous prenez Saint-Thomas, etc. Quelle richesse à chaque fois! Quelle richesse dans la formulation! Quelle richesse dans les différences de langue! Parce qu'il y a la christologie exprimée dans la langue grecque, il y a la christologie exprimée en latin, bon, très bien, et même, je dirais, en syriaque. Bon, mais à chaque fois...
Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père,
la patristique, si vous voulez, c'est tellement supérieur à la pensée allemande. Moi, pendant des années, j'ai été ébloui par la pensée allemande, d'une certaine façon. Mais bon, vous lisez trois lignes de Grégoire de Nazianze, et vous vous dites que vous avez été bien, bien imbécile. Bon, donc... je ne suis pas là pour faire souffrir l'auditeur de mes propres errances, mais du moins, en tout cas, je peux donner comme simple fait qu'une unité, une identité de christologie, par exemple, dans la pensée allemande, est impossible. Alors que le langage est le même, l'intention est souvent la même, parce qu'ils ont parfois des déclarations d'intention qui sont identiques. Ils font même des pactes entre amis. Hölderlin, Schelling, Hegel, vous connaissez bien le célèbre mot « royaume de Dieu sur terre », hein, vous saviez. Bon, donc... Les trois forment
le royaume de Dieu sur terre.
Ils voulaient tous les trois, ils étaient amis, ils appartenaient, ils étaient dans la même chambrée, dans le même pensionnat. Ils voulaient la même chose pour une même langue. Ils ont même rédigé un programme.
Ils étaient tous des apprentis séminaristes, je crois.
Oui, enfin ça c'était pour pouvoir faire des études. Mais bon, c'est une mode très allemande. C'est-à-dire le père de Mozart a fait des études aussi comme ça. C'est-à-dire il voulait faire des études. Alors,
il a dit que je serai
pasteur. Et puis après, bon, une fois qu'on a fait des études, on s'en va. Bon, ça c'est une grande. Vous avez trois personnes, Schelling, Heidegger, Hegel, qui sont camarades, ils sont même très amis, ils sont dans la même chambre, ils se disent on a le même programme, ils rédigent même plus tard un programme.
Schelling, Hegel et Hölderlin.
Ils rédigent un programme, le plus ancien programme de l'idéalisme allemand. Plus ancien système, ils voulaient un système commun, ils pensaient qu'ils allaient... Et à la fin, ça donne quoi ? Trois philosophies théologiques complètement différentes, avec une figure du Christ à chaque fois. Chez Hölderlin, il y a un Christ, chez Schelling et chez Hegel aussi. Et ils sont tous les trois se disent... Schelling se dit protestant, Hegel se dit protestant, Hölderlin, bon, c'est pas très bien, en tout cas, il ne se dit pas ennemi du protestantisme. Et on a trois choses complètement différentes. Alors ça, c'est quand même assez paradoxal. D'un côté, il y a une recherche d'unité, vous obtenez trois choses complètement bigarrées. Et de l'autre, dans le catholicisme, vous avez des langues différentes, des gens différents, des époques différentes, 1200, 1300, 1400 années de différence, et tout à coup, vous avez une harmonie extraordinaire avec des gens totalement différents. Et alors, et puis combien sont-ils? Là, ils sont trois, ça suffit de donner trois choses différentes, et les autres, ils sont, je ne sais pas, 500, et puis ça donne la même chose, enfin la même chose dans une richesse incroyable. Alors bon, moi je dis, choisissez votre camp si vous voulez. Moi, j'ai choisi celui de la vérité, donc du catholicisme, c'est très clair, c'est à la fois plus beau, plus élégant, plus unitaire, plus harmonieux, plus musical, plus pictural, plus sympathique.
Merci beaucoup de ce magnifique témoignage, Maxence Caron. Et il ne me reste qu'à vraiment encourager les auditeurs à vous lire. J'espère que vous les avez un peu irrités, que vous en avez un peu irrité certains, parce que c'est cette irritation est le commencement de la recherche de la vérité. Au début, vous êtes le poil à gratter, et ensuite, eh bien, ma foi, vous êtes aussi l'accoucheur des âmes, pour reprendre la métaphore socratique. Et cet accouchement, dans ce dernier livre, se fait donc en 1100 pages, où vous abordez d'une manière très très personnelle et très forte, après une très longue introduction, aussi bien les idiots immanentistes de la philosophie contemporaine, que ensuite Hölderlin, la piété double, que l'effondrement hegelien, l'absolu au rouet, Mallarmé, le crime clairvoyant, et Heidegger, la lueur insensée.
L'ouvrage s'achève par un poème mystique, après avoir commencé par un constat relativement apocalyptique sur ce que j'appelle la misosophie, qui est le contraire de la philosophie. C'est un parcours, voilà.
Comme vous dites, et je crois que ce qui est extraordinaire, c'est que vous rappelez aux gens qu'il y a une vie spirituelle, qu'il y a un élan de l'esprit. Et on a vraiment beaucoup de joie à vous suivre. Donc, La vérité captive de la philosophie, édition du CERF. Vous pouvez le commander dans toutes les bonnes librairies, et puis
le trouver.
C'est pas très loin, rue de la Tombe au Bourg. Vous trouvez aussi à la procure.
Oui, il est dans toutes les librairies, enfin du moins toutes celles que je fréquente. Et j'en fréquente quelques-unes.
Toutes les bonnes, donc.
Oh oui.
Merci beaucoup en tout cas, Maxence Caron, de ce magnifique témoignage philosophique. Car le philosophe doit aussi témoigner.
Merci, mon père.